Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Le pèlerinage des familles à Rome après une après-midi de fête samedi, grands-parents, parents et enfants se sont retrouvés une nouvelle fois place Saint-Pierre autour du pape pour la messe. Dans son homélie, le pape François leur a conseillé de ne pas maintenir leur foi dans un coffre-fort, mais de la diffuser, vivant dans la joie que nous porte le Seigneur. Cette semaine, la fondation Ratzinger s'est retrouvée à Rome pour parler de la figure historique de Jésus, de l'historicité des évangiles, des contributions scientifiques en la matière et des interactions entre études historiques et théologie. Nous en parlerons avec le père Yves Simons. Et comme tous les dimanches, nous retrouverons l'invité de Catherine Aubin, Luc Templier, un artiste vivant en Belgique. C'est à suivre dans la seconde partie de ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Encore des dizaines de milliers de fidèles place Saint-Pierre en ce dimanche matin, second jour du pèlerinage des familles sur la tombe de Saint-Pierre organisée dans le cadre de l'année de la foi. Samedi après-midi, près de 100 000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour toute une après-midi de partage, de témoignages, de chants et de prières. Les familles, aux côtés du pape qui les a rejoints, ont renouvelé leur profession de foi. Une attention toute particulière a été portée aux familles syriennes contraintes de fuir leur pays en guerre depuis 2 ans et demi. Une récolte de fonds a été organisée durant ce pèlerinage par le Conseil pontifical pour la famille et la Caritas Italie en faveur de Caritas Syrie. Déjà, samedi soir, le pape s'était donc adressé aux familles. Lors de la messe qu'il a présidée ce dimanche matin, le pape François est revenu dans son homélie sur quelques caractéristiques fondamentales de la famille chrétienne. La famille qui prie, la famille qui garde la foi, la famille qui vit la joie. Jean-Baptiste Cocagne.
Il y a deux manières de prier, celle fausse du pharisien et celle authentique du publicain. Le pharisien, a expliqué le pape, exprime la satisfaction de soi, tandis que le publicain ne multiplie pas les paroles. Sa prière est humble, sobre, emplie de la conscience de sa propre indignité. Les familles doivent prier comme le publicain, sentant qu'elles ont besoin de Dieu, de son aide, de sa force, de sa bénédiction, de sa miséricorde et de son pardon. Le Saint-Père a également exhorté les pèlerins à annoncer la foi, à la diffuser, à la porter au loin et à ne pas la laisser dans un coffre-fort. Autre aspect essentiel aux yeux du pape François, la joie qui vient du fait que le Seigneur est proche, qu'il écoute le cri des humbles et les libère du mal. Dans les familles, la vraie joie vient d'une harmonie profonde entre les personnes. La présence de Dieu dans la famille est la base de cette joie, a insisté le pape. Cet amour qu'il prodigue est un amour patient. La patience est une vertu de Dieu et nous enseigne, en famille, à avoir cet amour patient l'un envers l'autre. Le pape François a enfin donné un dernier conseil aux nombreuses familles réunies autour de lui. Vivez toujours avec foi et simplicité, comme la Sainte Famille de Nazareth.
Jean-Baptiste Cocagne. Et puis à l'issue de la messe, après le salut de Mgr Palia, président du Conseil pontifical pour les familles, organisateur de ce pèlerinage, le pape s'est rendu devant l'icône de la Sainte Famille installée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre et a récité une prière dans laquelle il a demandé que les merveilles de la grâce soient renouvelées. Il a demandé aussi à la Sainte Famille qu'elle nous enseigne à imiter ses vertus avec une sage discipline spirituelle. Fais renaître en nous l'estime du silence, rend nos familles cénacles de prière et transforme-les en petites églises domestiques. Renouvelle le désir de sainteté, soutiens le noble effort du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la compréhension réciproque et du pardon, a-t-il encore demandé. Il a enfin prié pour que la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille soit réveillée dans notre société. C'est ainsi que s'est conclu ce pèlerinage des familles sur la tombe de Saint-Pierre qui a suivi l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille cette semaine. L'autre grand moment concernant la famille, ce sera le synode spécial des évêques qui se déroulera en octobre 2014 au Vatican. À chaque intervention publique, le pape ne cesse de saluer celles et ceux qui le suivent et l'écoutent via les réseaux sociaux et les nouveaux moyens de communication. Benoît XVI d'ailleurs avait été le premier à utiliser l'un de ses outils, Twitter. Dorénavant, le pape François l'utilise tous les jours, dispensant d'une centaine de caractères seulement une pensée relative à la foi, à la vie, à l'Église ou à la société. Son compte pontifexe, rencontre ainsi un large succès, puisque le nombre de followers, c'est-à-dire le nombre de personnes qui le suivent, qui sont abonnées à son compte Twitter, dépasse maintenant les 10 millions, toutes langues confondues. À cette occasion, le pape a publié aujourd'hui ce tweet. « Chers followers, j'ai appris que vous êtes plus de 10 millions. Je vous remercie de tout cœur, vous demandant de continuer à prier pour moi. » N'hésitez donc pas, vous aussi, si vous avez un compte, à suivre le pape François. C'est très simple, vous le trouverez donc sous le nom de Pontifex. Du 24 au 26 octobre, s'est tenu à Rome un symposium sous les auspices de la Fondation Ratzinger, ayant pour thème les évangiles, histoire et christologie. Un symposium très spécifique donc, essentiellement basé sur la recherche du théologien Joseph Ratzinger, à la lumière de ses écrits, notamment de sa trilogie « Jésus de Nazareth ». De nombreux participants et intervenants de renom se sont penchés sur la figure historique de Jésus, sur l'historicité des évangiles, sur les contributions scientifiques en la matière ou les interactions entre études historiques et théologie. Parmi les intervenants, le père Yves Simons, jésuite, professeur d'exégèse biblique aux facultés jésuites de Paris, enseignant émérite au Centre Sèvres à Paris. Il revient pour nous sur les thèmes abordés lors de ce symposium.
Alors, l'historicité de Jésus n'est absolument pas remise en question. C'est le personnage de l'Antiquité sur lequel on a peut-être le plus de documentation par rapport aux autres grands auteurs, grands philosophes, grands penseurs. Mais il est sûr que, disons, l'exégèse moderne s'est beaucoup attachée dans la ligne de travaux inspirés par la méthode historique comme discipline scientifique à ce qui pourrait remonter au Jésus dit historique et ce qui est de l'ordre de l'interprétation de ce personnage à la lumière des événements de sa Pâque. Passion, mort et résurrection. Alors justement, à l'heure actuelle, ces recherches ont bien montré à quel point finalement le noyau historique sur ce que l'on peut dire de Jésus du point de vue de ce qu'il a dit et il a fait est certainement bien assuré, mais en même temps il faut reconnaître l'importance de la participation du témoignage à la fois des disciples, des évangélistes et de l'Église dans cette perception du personnage central de Jésus.
Vous êtes vous-même intervenu sur un thème assez particulier, c'est la réévaluation historique du quatrième évangile. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ?
Oui, alors c'est ce que je dis en général, c'est le domaine que je connais le moins mal dans la Bible. J'étais très louangeur sur tout ce que le pape Ratzinger disait à propos, disons, de la fiabilité historique de l'évangile de Jean. On considère habituellement comme le plus spirituel et le plus théologique des évangiles et donc peut-être le plus suspect du point de vue de l'historicité. Or, il s'avère de plus en plus que c'est le contraire qu'il faut dire, que beaucoup de ce qui est dit de Jésus dans l'évangile de Jean a plus de vraisemblance historique que les versions que l'on donne de la vie de Jésus dans les synoptiques. Par exemple, le fait que Jésus soit monté au cours de sa vie publique de 3 ans, 3 fois à Jérusalem, à l'occasion des fêtes de Pâques, et alors peut-être aussi la fête des Tentes et la fête de la Pentecôte juive. Donc la vraisemblance historique, pour le moment, pour des événements bien précis de la vie de Jésus, comme ces 3 montées à Jérusalem, comme les 3 Pâques, et aussi pour la chronologie de la Passion, l'emporte sur la version des synoptiques qui tient plus du schématisme. L'évangile de Jean, en effet, porte sans doute le plus la marque de l'intervention des témoins des événements de la Pâque de Jésus lui-même. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs aussi pour laquelle l'auteur insiste tellement sur les 3 Pâques des Juifs que Jésus honore pendant sa vie publique. Cette marque imprimée à l'évangile de Jean par le témoignage des témoins après la résurrection ne trahit absolument pas l'histoire. Au contraire, plus cet évangile insiste finalement sur une dimension de foi qui fait du croyant quelqu'un qui participe vraiment par sa foi à l'identité filiale et fraternelle de Jésus, plus ce même texte insiste sur le caractère historique, incarné de ce que l'on dit à propos et de Jésus et de ses disciples.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Comme tous les dimanches, rendez-vous avec l'invité de Catherine Aubin, l'hôte d'aujourd'hui vit en Belgique où il a été conservateur de musée pendant plusieurs années. Il s'agit de Luc Templier, un artiste ayant déjà exposé dans différents pays. Il est animateur de stages sur la créativité, auteur de plusieurs pièces de théâtre, calligraphe et peintre. Son premier roman, Le Maître de Wara, est un chef-d'œuvre inspiré d'un sculpteur du XVIe siècle ayant vécu en Belgique. Il est aussi l'auteur d'un livre de calligraphie dont le titre est évocateur, 52 méditations pour vivre. Ce sont des phrases de la sagesse populaire, de la littérature, calligraphiées par lui-même et qui peuvent accompagner une vie.
Luc Templier, vous avez été conservateur de musée, mais vous êtes aussi écrivain, calligraphe. Vous avez aussi fondé une maison de publicité il y a quelques années. Bref, une existence avec plusieurs étapes. Quel est le fil rouge de tout ce parcours?
C'est l'art. C'est petit déjà cet intérêt pour l'art et qui n'a cessé depuis de nourrir ma vie. Voilà. L'homme, moi je dis souvent, l'homme c'est celui qui transforme en homme tout ce qu'il mange, des carottes, du poisson, de la viande, mais aussi tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il lit, c'est toutes ces nourritures-là. Et depuis que je suis enfant, je me nourris comme cela, avec de l'art. Et l'art est une immense consolation dans ma vie. Moi, il suffit que je ne sois moins bien, par exemple, bien, je feuillette un livre d'un sculpteur que j'aime, que j'adore, et je suis tout de suite consolé. Et donc c'est l'art qui a été le fil rouge de ma vie. Donc j'ai fait des études de lettres et arts plastiques à la Sorbonne, à Paris. Puis j'ai immigré à Liège, en Belgique. Là, j'ai fondé une troupe de théâtre pendant 10 ans. J'étais comédien, metteur en scène. Et puis, oui, effectivement, des vies de cycle comme cela. Donc après, j'ai été pendant 10 ans, j'ai fondé une agence de publicité. Mais l'art était derrière, là, encore. Puis après cette agence de publicité, j'ai pris en charge un musée qui était moribond, pratiquement fermé, dans une ville moyenne de Belgique, au sud de Namur, à Marche-en-Famenne. Et j'ai recréé les collections de ce musée avec des richesses qu'il possédait déjà et d'autres que je suis allé chercher. Et notamment des sculpteurs d'un anonyme, de 1500, que l'on appelait le Maître de Wara.
Et qui est le titre de votre dernier roman.
Voilà.
Pour lequel vous avez eu un prix, le prix Godefroy.
C'est ça.
Racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre?
Je cherchais un roman dans lequel je pouvais mettre des thématiques que j'avais déjà abordées avec d'autres livres, qui étaient plus des livres un peu de développement personnel, je vais dire. J'avais fait un livre qui s'appelle 52 méditations pour vivre, qui sont des clés de vie. Et je voulais glisser ça dans un roman, sans être donneur de leçons. C'est pas facile, ça. Et donc, je me suis dit que la meilleure façon de faire ça, c'était de créer une distance et donc situer l'action dans le passé, plutôt que de nous servir des personnages qui nous ressembleraient trop dans un monde désenchanté et toujours remuer la même boue. Donc voilà. Et j'avais dans le musée donc des œuvres du Maître de Wara. Je passais devant elles tous les jours. Et puis un jour, illumination, un ami me dit « Mais tu devrais écrire un roman sur le Maître de Wara. » Je dis « Mais oui, c'est ça quoi. » 1500, un maître anonyme, on ne connaît rien de lui, je peux lui prêter le destin que je veux, évidemment. Il a travaillé dans une ville fortifiée en 1500, une ville fortifiée avec toute la symbolique que recouvre cela. Une ville fortifiée, c'est les remparts. Une ville, c'est comme un être humain, c'est une peau, ces remparts. On se protège, on peut vivre dans une ville fortifiée toute sa vie, sans audace, sans aller dehors, sans aller voir la vraie vie qui est dehors, quoi. On peut tourner en rond là-dedans à faire, je dirais, toujours plus la même chose, qui est un peu la définition de l'enfer, ça, hein, dans nos vies, de faire toujours plus la même chose. Et ce maître de Wara, donc ce sculpteur anonyme, sculpte dans cette ville fortifiée, à l'intérieur de ses remparts. Tout va bien, mais il ronronne un petit peu dans sa vie. Et puis un concurrent va, sur le terrain de l'art et de l'amour, rentrer en concurrence, justement, avec lui et bouleverser sa vie. D'un petit événement, sa vie va être complètement bouleversée et il va devoir sortir, aller à la recherche de lui-même et sortir de ses propres remparts pour aller voir qui il est. Et donc, il va traverser cette époque qui est le début de la Renaissance, hein, en 1500. Il va aller jusqu'à Metz, qui est une deuxième ville fortifiée, une deuxième peau qu'il va aller expérimenter. Et là, il va apprendre à travers l'art d'un archer ce qu'est une voie de connaissance, comme la calligraphie est une voie de connaissance, par exemple. À travers un art, de pouvoir se questionner pleinement et profondément.
Alors justement, vous venez de parler de la calligraphie, Luc Templier, et j'en profite pour vous demander ce qu'est la calligraphie pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure de transformation. Est-ce que la calligraphie est une école de transformation ?
Oui. Oui, toutes les techniques exigeantes le sont. Je dirais que quelqu'un qui fait du piano, c'est aussi une école profonde de transformation. Parce que nécessairement, il y a des jours où l'on se heurte à ses limites. La calligraphie, c'est un art de l'instant. On ne peut pas le faire avec tout le poids du passé sur les épaules et toute cette espérance dans demain. Donc il faut lâcher tout ça et être là, ici et maintenant, pour emprunter le geste que l'on va faire avec, je dirais, un grand dépouillement. Voilà, une grande simplicité. Dès que vous commencez à être un petit peu pris par des soucis ou des choses comme ça, le trait n'est plus juste, le trait n'est plus fluide. Ce n'est plus aligné, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites même. Donc la calligraphie, c'est un art de l'instant et vous vous heurtez nécessairement en traçant, puisque c'est un art exigeant, qui demande un tracé comme ça et pas comme ça. Donc c'est, par exemple, une lettre doit rentrer dans un carré, telle courbe doit être comme ceci, puis s'inverser comme cela, et puis le geste repart d'ici et vient terminer dans sa perfection là, mais pas là. Vous comprenez donc vraiment l'extrême précision et cette jouissance de rentrer dans cette précision pour après l'oublier. Une fois qu'on a maîtrisé la technique, on l'oublie et on acquiert une immense liberté là, dans cette maîtrise de la norme. C'est vrai pour le football, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de limite de terrain, il n'y a pas de jeu. Et c'est pareil avec la calligraphie. Donc il y a des règles qu'il est bon de connaître. Et quand on les connaît et qu'on les maîtrise, alors on peut aller plus loin. Alors, je dis bien, on peut aller plus loin. Parce qu'en créativité, dire à des gens, allez-y, faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, ça ne marche pas. Parce qu'on retombe toujours dans le, comme je disais tout à l'heure, faire toujours plus la même chose. On va aller dans ces stéréotypes et puis on va faire que les répéter. Et on va être désespéré. On va être désespéré parce qu'on refera toujours plus la même chose. Et la calligraphie, moi, dans mes stages que je donne, c'est donner des outils qui vont permettre d'aller plus loin que ces stéréotypes, d'aller voir hors les murs, derrière les remparts de ce que l'on sait faire. Ce qu'on sait faire, on sait qu'on sait le faire. Mais oser aller mettre un pas à l'extérieur de ce que l'on sait faire. Un pas à la fois. Je ne dis pas se bouleverser et se mettre sans dessus dessous et d'expérimenter des choses qu'on n'est pas capable de vivre sur le moment. Mais pas à pas, on peut aller vers un vrai changement. Et la calligraphie est une voie de connaissance.
Pour terminer, Luc Templier, vous avez eu beaucoup de compliments sur votre musée en Belgique, dont vous avez été conservateur. Parmi les compliments que l'on vous a fait, on vous a dit que vous avez voulu sortir le musée du musée. Quand je vous entends parler de la calligraphie, vous dites la même chose, aller au-delà. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pousse encore à aller au-delà ?
Je reviendrai à ma réponse du début, c'est l'art. C'est cette, si j'ai une mission, je pense que c'est celle de transmettre au niveau de, justement, de l'art.
Mais de transmettre aussi quelque chose qui est de la forme d'une bienveillance. Vous avez, quand vous avez sorti votre livre sur les méditations, vous avez exprimé le souhait à vos lecteurs que ces méditations s'ancrent et qu'il y ait un ancrage de bienveillance.
Oui, je disais même qu'elles martèlent leur bienveillance, que les phrases martèlent leur bienveillance. Je pense qu'une phrase peut nous accompagner durablement pendant des années, parfois même d'ailleurs sans la comprendre. Et puis un jour vient où elle tombe dans les chaussures. On peut annoncer parfois des phrases, mais ce sont des citations. On a l'impression de les avoir compris, on n'a rien compris. Il faut les incarner. Ces 52 phrases, si une seule pouvait accompagner durablement quelqu'un et l'aider, ne serait-ce qu'un peu, ben j'aurais réussi mon pari de ce livre.
Luc Templier, c'était l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre attention et de votre fidélité. Où que vous soyez, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.